Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut et bienvenue dans votre émission À bout de souffle. Pourquoi à bout de souffle hein? Tout simplement parce que déjà nous serons deux derrière les micros. Ensuite, à la fin de l'émission, nous espérons bien que vous serez à court de souffle par tout ce que vous aurez entendu et appris. Et surtout parce que cette émission est un partenariat entre deux entités, monparisfm.com et isnews.fr. Deux entités promouvant la mixité sociale, les parcours atypiques et la réussite par le travail. Au cours de chacun de nos épisodes, vous aurez l'occasion d'écouter un acteur ou une actrice plus ou moins connue revenir sur son parcours, ses rencontres, ses réussites et ses échecs. Des parcours qui, on l'espère, en inspirera plus d'un d'entre vous.
Là, je suis pas bien. Donc la morale, tu vas la faire à d'autres. Là, je suis pas bien.
Pour cet épisode avec moi, elle est jeune, drôle et inspirante de par son parcours, audacieuse, elle utilise l'absurde pour dépeindre avec talent les intrications de la vie quotidienne, fête de la ville ou encore permis de conduire, tout est bon pour faire rire, Abby deux fois et mon invité, comment ça va Abby?
Waouh, quelle intro, purée.
C'est travaillé, hein, c'est préparé.
Oh là là là, hey, j'aurais dû t'enregistrer, je vais montrer ça à ma mère tout de suite là.
On lui enverra un extrait avec plaisir.
Direct. Ça va et toi?
Bah, ça va, tranquille, ça se passe.
Super,
on sait qu'il y a bientôt un spectacle...
C'est trop stressé. C'est là, on y est. Bah écoute, je commence à avoir mal à la gorge. C'est un peu relou, mais là, je suis dans les petits remèdes et tout pour aller mieux. Comme ça, le 8 décembre, on se rend.
C'est quoi les secrets d'ailleurs? Quel remède? Tu conseilles quoi?
Alors, du bissap, de l'hibiscus, avec du gingembre, pas tout mélanger. Hein. Mais moi, avant de dormir, je prends du bissap. Comme ça, après ma gorge, voilà, c'est bien. Et après, en journée, je mange beaucoup de gingembre.
Ok.
Aimer le piquant, quoi.
C'est donc ça le secret, le piment.
C'est ça, le piment. Finalement, c'est ça, ouais.
Pour que les gens ils te connaissent mieux, on va faire une petite fiche d'identité. C'est ce que je fais faire à chacun de mes invités. Est-ce que tu es prête?
Vas-y, let's go.
Alors, toi, tu es la fiche d'identité numéro 141-069-02.
Purée.
On commence. Nom, prénom ou pseudo?
Alors, Abby Twice.
Date de naissance?
16 juin 2001.
Lieu de naissance?
Villeneuve-Saint-Georges, 9-4.
Profession?
Humoriste.
Passion, hobby?
Alors, passion, humour, musique, et création. Hein. J'aime bien créer, j'aime beaucoup créer.
Talent caché,
ah, la cuisine. La cuisine.
On n'a pas de preuves aujourd'hui, malheureusement.
Non, purée, il fallait me dire, je te ramène des pastels la prochaine fois, promis,
avec
direct.
Avec plaisir. Lieu de résidence?
Dans le 91, à hier.
Réseaux sociaux,
Instagram Abby deux fois, ABY2FOIS. Je précise bien parce que les gens, des fois, ils aiment bien écrire Abby. Ce compte n'existe pas. Et sur Snapchat, c'est Abby Twice. Et sur Facebook, c'est Abby deux fois, mais je n'ai pas alimenté du tout. Donc
ça sert à rien d'y aller.
Voilà, mais bientôt, là, je vais me remettre dessus. Là. Et les vieux, je dois les attraper.
Alors, on va commencer par ton enfance, déjà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette enfance? Comment elle se passe? Où tu as grandi? Avec qui? Quel genre d'enfant étais-tu?
Alors, moi, j'ai grandi à hier, dans le 91, hein, comme je te disais. Mmh. Je suis la dernière de la famille. Donc, on est une famille de 6 enfants. Moi, j'arrive vraiment à la fin. Hein, parce qu'avec mes grands frères et sœurs, on a limite 10 à 16 ans d'écart, tu vois. Donc, j'arrive vraiment à la fin. Et bah écoute, moi, j'ai grandi dans une famille vraiment, vraiment cool. On a toujours été dans l'artistique parce que, voilà, mon père, il travaillait avec... Je sais pas si vous connaissez mes Camara Productions.
Ouais.
Voilà, un des plus grands producteurs. Le plus grand producteur audiovisuel de chez nous, les Westaf. Donc ça veut dire que mon père, en fait, il a travaillé avec lui pendant plus de 10 ans. Ça veut dire que tous les jours, il nous ramenait des cassettes jusqu'au début des DVD, carrément, des cassettes. Et à côté de ça, il travaillait avec d'autres gens. Donc ça fait qu'il n'y avait pas que des cassettes de films africains. Il y avait des films américains, films français. Donc, on a directement baigné dans la culture donc cinématographique et musicale. Donc, il y avait beaucoup de musique et beaucoup de films. C'est ce que je retiens beaucoup.
Et tu disais, tu as 6 grands frères et sœurs, c'est ça?
Non, j'ai 3 grands frères et 2 grandes sœurs. Et moi, je suis la 6e, du coup.
Tu es la 6e. Ouais. Du coup, comment elle se passe la relation avec eux? En plus, tu le dis, tu arrives à la fin, tu es la plus petite. Il y a un grand écart d'âge. Comment ça se passe? Est-ce que tu es le chouchou de la famille?
Bah ouais, à la fois, je suis le chouchou de la famille, je suis en même temps la pote à tout le monde, mais moi, mes grands frères et sœurs, c'est limite un peu, je les vois un peu comme mes darons, entre guillemets, parce que t'as vu, Nos parents, ils n'avaient pas trop le temps quand on était petits, ils travaillaient beaucoup. Et généralement, tu sais, moi, par exemple, ma mère, elle sait pas lire, tu vois. Donc, ça fait que c'était mes grandes sœurs qui s'occupaient de mes devoirs. C'était mes grands frères, tu vois, qui me gardaient quand mes parents étaient à l'école. Enfin, mes parents étaient à l'école, pardon, au travail. Donc, ça veut dire que j'ai eu un lien directement assez fort avec eux, en fait. Donc, c'est eux que j'ai plus vu comme mes parents pendant mon enfance, tu vois. Et après, quand mes parents ont commencé à un peu plus vieillir, ça y est, j'ai passé beaucoup plus de temps avec eux.
Comment elle se développe, cette passion pour l'humour ? Est-ce que c'est par ces DVD, justement, cassettes DVD que ton père te ramènera au fil des années ? Ou est-ce que c'est autrement ?
Ouais, franchement, ça vient de là. Hein. Parce que même avec du recul, j'y pense des fois, j'en parle avec mes frères et sœurs, et ça vient de là. Parce qu'en fait, le fait de voir les mises en scène... Parce que moi, pendant des années, je pensais que c'était vrai. Tu sais, moi, comme je te dis, il y avait les guignols d'Abidjan avec Go, tout ça. Donc moi, pendant longtemps, je pensais que c'était vrai. Et c'est après que j'ai commencé à comprendre que non, c'était faux. Il y avait une mise en scène, il y avait un scénario, il y avait un truc. Et je me dis, mais attends, c'est quoi ce métier, en fait ? C'est quoi ce métier ? Et en fait, moi, au début, je prends la passion pour le cinéma, tout ce qui est les théâtres et tout, entre guillemets, comme on dit. Mais le stand-up, ça vient après. Parce qu'un jour, ma sœur, elle vient avec un DVD du Jamel Comedy Club, la première saison. Donc, ça veut dire qu'en fait, même quand mon père, il a arrêté de ramener des cassettes, mes frères et sœurs, ils achetaient tout le temps des films, des trucs. Donc, ma sœur, elle vient avec le DVD du Jamel Comedy Club. À l'époque, moi, j'ai quoi ? J'ai 6-7 ans, première saison, je comprends rien du tout. Je comprends rien, mais je vois des gens qui nous ressemblent passer, prendre un micro, dire des choses drôles. Je comprends rien, encore une fois, parce que je suis une petite peu. Mais tiens, c'est lourd, ça ! Et à partir de 7-8 ans, je dis, ça y est, je veux faire comédienne.
T'es sûr à
7-8 ans ? À partir de... Ouais, mais c'est une dinguerie, en vrai. Bah, avec du recul, c'est une dinguerie. 7-8 ans, je dis, ça y est, je veux faire ça. Pourtant, je savais même pas, juste, je l'ai trouvé trop stylé.
Et justement, à l'école, ça se passe comment ? Est-ce que tu étais le genre d'élève qui faisait rire à les autres ? Est-ce que tu étais réservé ? Quel est ton lien avec l'éducation nationale ?
Il est spécial. En vrai, moi, à l'école, j'étais pas la plus drôle. Fallait me connaître pour savoir que je suis drôle, tu vois. J'étais assez réservée. En plus, tu as vu, on a grandi à Hyères. Hyères, c'est une ville remplie de personnes blanches. Hein, voilà. Tu as vu, on fait partie des premières familles noires à habiter à Hyères. Donc voilà, ça veut dire qu'on n'était pas... C'était pas l'époque où les Renault étaient à la mode. Donc moi, j'étais par exemple la seule Renault de ma classe pendant des années. Donc tu vois, ça veut dire déjà que t'es pointé du doigt déjà quand tu fais rien. Donc j'étais pas la plus drôle, tu vois, mais j'avais déjà mes petits trucs à moi. Et en fait, fallait être ma copine pour voir à quel point j'étais drôle. Donc ça veut dire qu'à l'école, il n'y avait pas trop de blagues, mais à la maison, il y en avait beaucoup. Vu qu'à la maison, en fait, de toute façon, comme dans les familles Renault ou les familles de chez nous, soit ça rigole, soit ça pleure. Donc, tu vois, ça rigolait beaucoup chez moi. Donc, ça veut dire, j'observais beaucoup à l'école. J'intériorisais beaucoup et à la maison, bah, je rigolais de tout ce que je voyais à l'école et tout ça, quoi.
Et comment tu vis justement le fait d'être la seule noire de la classe ? Est-ce que sur ton développement en tant que jeune femme, est-ce que ça a un impact ou pas du tout ?
Bien sûr. En fait, au début, tu t'en rends pas compte. Au début, tu t'en rends pas compte parce que tu... Je dirais pas que tu vois pas que t'es l'intrus, entre guillemets, mais c'est imprégné en toi. Dans ta tête, c'est juste normal d'être la seule Renoir. Mais c'est au fur et à mesure, quand tu grandis, que tu commences à arriver au collège, au lycée, tu vois qu'en fait, il peut y avoir plein de Renoirs dans ta classe. Et tu vois qu'en fait, t'as pas forcément eu la même éducation parce que tu te dis « Ah, mais en fait, j'étais la seule Renoir là-bas. » Du coup, j'étais pas trop à l'aise. Et maintenant que je me retrouve avec plein de Renois dans ma classe, ah mais c'est stylé en vrai, mais non, en fait, je peux plus m'épanouir. Donc en fait, il y avait ce truc où j'étais tellement, en fait, c'était normal de pas avoir de Renois, bah je me suis adaptée comme j'ai pu, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment commencé à trouver qu'il y avait un problème, en fait, dès que je suis arrivée au lycée, là où il y avait plein de Renois, tu vois, par exemple.
Et t'as gardé contact, justement, avec ces gens de l'élémentaire qui, finalement, qui te ressemblaient parce qu'ils sont humains, mais qui ne te ressemblaient pas par la couleur de peau. Est-ce qu'on garde contact avec ces gens-là quand on grandit ?
Pas forcément. Alors d'aujourd'hui, il y a des personnes que je vois, mais il n'y en a aucun avec qui je parle, tu vois. Il n'y en a aucun avec qui je parle.
Mais est-ce qu'il y a un écart qui se creuse, justement, avec les autres Noirs ? Parce qu'on parle comme ça un peu crûment, mais est-ce que le fait d'avoir grandi avec des gens qui ne nous ressemblent pas par leur couleur de peau, est-ce que ça crée un écart avec les autres Renois qu'on va rencontrer au fur et à mesure de notre parcours ?
Bien sûr. Bien sûr, de fou. Tu sais, moi, j'avais, tu sais, de toute ma primaire, j'avais juste besoin d'avoir des gens qui me ressemblaient, tu vois. C'était plus fort que moi. Collège, il commençait à avoir un peu de Renois, mais on n'était pas assez. Tu sais, par classe, on était quoi ? 3 Renois par classe. Donc, c'était toujours les autres qui étaient un peu plus en force. Et quand tu arrives au lycée, tu vois que forcément, ça y est, tu commences à retrouver les autres. Tu te dis, oh, mais c'est toi aussi. Oh, toi aussi. En fait, tu comprends que tu as des potes. Tu te fais des potes au lycée. Tu vois qu'eux, dans leur classe, bah, ils ont toujours grandi avec, entre eux, en fait. Ils ont toujours grandi entre eux. Donc, ça veut dire qu'eux, ils ne comprennent pas. Quand tu leur dis, mais moi, tu as vu, avant, il n'y avait que des blancs. Ça veut dire qu'ils ne comprenaient pas les délires et tout, tu vois. Donc voilà, mais après, encore une fois, il y a zéro racisme. Hein, moi, j'ai aucun problème avec les blancs. Voilà, c'est juste.
Mais dans sa propre construction, je suppose que c'est important aussi de grandir avec
les gens. Bien sûr, parce que moi, en fait, finalement, il n'y avait que ma famille. Il n'y avait que ma famille qui me ressemblait dans la ville où j'étais, quoi.
Et est-ce que tu as déjà ressenti, en tout cas, de la part de ces autres camarades ou de la part des professeurs, des petites remarques, un traitement qui montrait que tu étais différente ou pas du tout? À ce niveau-là, c'était bien.
Oui, mais après, encore une fois, tellement tu es habitué, tu t'en rends pas compte. C'est après que tu réalises. Moi, sur le coup, je m'en rends pas compte. Mais quand tu vois qu'une maîtresse va beaucoup plus créer sur toi parce que tu comprends pas les choses, après, voilà, je dis pas que je comprenais rien non plus, mais des camarades avec les mêmes difficultés que moi, ils n'avaient pas forcément le même traitement. C'est après, tu te rends compte que ah, bon, en fait, c'est bizarre. Tu vois qu'après, par exemple, quand on fait des groupes pour jouer à chat ou des trucs, bah vas-y, y en a, ils veulent pas se mettre avec toi, des trucs comme ça, tu vois. Tu te dis, ah, mais en fait, c'est... Tu vois ouais. C'est chaud, tu vois, mais tu comprends ça plus tard, en fait. Tu comprends ça plus tard. Donc, c'est bien sûr que ça joue beaucoup dans la création d'une femme, tu vois. Quand tu veux te construire, tu regardes autour de toi. Tu vois que, par exemple, même au niveau des cheveux, tes copines n'ont pas les mêmes cheveux que toi. Les traits, même les traits de beauté. Enfin, il y a plein de trucs sur lesquels tu te dis, ah putain, en fait, c'est on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Et après, tu vois, je pense comme pas mal de Noirs qui ont grandi dans les mêmes conditions que moi, à un moment donné, tu te dis, putain, moi aussi, j'ai envie d'être blanche.
Il y a ce truc...
Je pense que oui. Après, moi, tu vois, ça a pas duré longtemps, mais je me souviens quand j'étais quoi au CE1, c'est l'année où j'ai dit putain, mais moi je suis pas blanche, tu vois. C'est par exemple quand tu vas à la piscine, des trucs bêtes, hein, à la piscine, tu vois que par exemple tes copines elles font le sèche-cheveux et tous les trucs comme ça, elles mettent le bonnet et tout. Toi t'es là, tu dis putain, mais je suis son crépus, comment on fait, tu vois. T'es là, tu vas faire des mèches, ah, mais c'est pas tes cheveux, mais comment ça se fait, nanana, tu vois. C'est à dire, t'as pas l'impression d'être vue comme une meuf normale en réalité, tu vois. Donc, tu grandis avec ça. Et c'est après, hein, comme je t'ai dit, c'est après que tu vois les résultats.
Que tu t'en rends compte. C'est ça. Il y a ce problème un peu de mixité sociale. Tu dirais qu'il est vraiment là, le problème. En fait, le problème, toi, c'est pas que tu étais qu'avec des blanches, c'est qu'il n'y ait pas assez de noirs.
Exactement, c'était ça le problème.
Tu voulais pas être qu'entre noirs non plus.
Voilà, je voulais pas non plus, tu vois, parce que moi, j'ai toujours eu. Et je pense que même c'est l'école qui m'a permis d'avoir cette facilité à m'adapter, tu vois, parce que. Je demandais pas à avoir full black dans ma classe, avoir que mes potes noirs, mais au moins, je pense que si j'avais eu 2-3 copines black à l'époque, ça m'aurait beaucoup aidé, même dans ma construction, tu vois. Mais après, encore une fois, c'est mon destin, je l'accepte comme il est, tu vois, j'ai pas vécu une folie non plus, tu vois.
Et quand t'arrives à la maison, t'en parles avec tes frères et sœurs de ça, est-ce que c'est quelque chose qu'eux, ils ont également vécu? Est-ce qu'eux, ils ont grandi aussi dans un environnement comme ça, ou comme ils sont beaucoup plus grands que toi, ils ont peut-être grandi ailleurs? Est-ce que vous en parlez? Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce qu'ils te rassurent par rapport à tout ça?
Alors non, on n'en parle pas. Parce que pour nous, c'est encore une fois, c'est normal. Moi, mais il y a mes deux frères qui sont avant moi, qui ont eu la même enfance, on va dire. On a grandi dans la même école, nous trois. Donc, ça veut dire qu'on est habitués aux personnes blanches, tu vois. Et après, eux, vu qu'ils étaient beaucoup plus grands, c'était pour qu'ils étaient déjà au lycée. Donc, eux, ils avaient déjà leur cocon, tu vois. Ils avaient déjà leur poteau qui leur ressemblait et tout.
Justement, donc, ensuite, toi, t'arrives au collège, lycée. Comment se passe la scolarité au collège et au lycée? Est-ce que, on le sait depuis 7-8 ans maintenant, tu sais que tu veux être humoriste, mais est-ce qu'au collège et au lycée, il y a une remise en question de quel métier tu veux faire plus tard?
Bien sûr. Bien sûr, parce que moi, quand je dis que je veux être humoriste, bah, on se fout de ma gueule pleinement, mais directement. Mais pourquoi tu veux faire ça, genre? Pourquoi tu veux faire ça? Et en plus, à l'époque... Kev Adams Mania, comme on dit, moi je dis Kev Adams Mania. Kev Adams, c'est la big star, c'est l'humoriste des jeunes, c'est le chouchou des jeunes. Moi, Kev Adams, quand en fait je l'ai vu, j'ai eu le déclic, j'ai dit ça y est. En fait, son histoire, elle était très similaire à la mienne, dans le sens où, voilà, personne croyait en lui quand il était jeune et qui disait qu'il voulait faire ça. Et du coup, moi, dès qu'on me disait, ah, mais vas-y, pourquoi tu vas faire ça, arrête de nanana, va travailler comme tout le monde, je disais, regardez Kev Adams, tu vois. C'est-à-dire, moi, je n'étais pas fan, finalement, de ses sketchs ou quoi, mais j'aimais beaucoup la personne. J'étais vraiment fan de la personne, donc, Donc on va dire que Kev Adams, il a joué un rôle hein, dans ma carrière, entre guillemets. Mais pour revenir sur l'école, ouais, non, moi, j'ai toujours été très rêveuse. Hein. Très, très, très rêveuse, dans le sens où, ça y est, j'avais quand même la moyenne et tout, mais j'ai jamais été concentrée. Parce que je suis une rêveuse, j'ai toujours été ailleurs. Enfin, pas ailleurs, voilà, tu me parlais, je te répondais, tu vois. Mais quand même, voilà, on va se calmer. Mais tu vois, je rigolais tout le temps avec mes potes, je faisais toujours rire les gens. Tu vois, je faisais rire mes potes travaillaient, moi je travaillais, je faisais ce que je pouvais, mais le reste du temps c'était pour les faire rire, donc je partais vraiment pour faire rire les gens, moi.
Élève turbulent ?
Turbulente, non, parce que voilà, moi je restais en place, tu vois, à peine tu me disais t'appelles mes darons, bah direct, ouais, j'étais calme, tu vois. J'étais vraiment pas une fouteuse de merde, mais j'étais quand même, j'étais grande bavardeuse. Hein.
On sait qu'il y a ce choix en troisième, ouais, de lycée pro, général, ouais, comment ouais, il se passe le choix pour toi, quel choix tu fais ? Ou quel choix finalement on t'impose ? Il y a des invités qui nous expliquent qu'il y a des choix qui leur ont été imposés à eux. Est-ce que toi, le choix, il est imposé ou finalement, tu décides de ce que tu vas faire plus tard ?
Bah après, franchement, moi, j'ai fait un truc un peu bizarre. J'ai choisi la facilité parce qu'en fait, je savais pleinement ce que je voulais faire. Ça veut dire que je voulais pas me prendre la tête à aller faire des bacs plus 3. En fait, je voulais pas le même cursus basique. Je me suis dit... Fais tes diplômes, comme ça tu fais vite ce que tu as à faire, tu vois. J'ai dit, vas-y, ramène un diplôme à la maison, fais tes bails, comme ça après t'es tranquille. Parce que vas-y, tu sais, les profs, de toute façon, ils voyaient comment j'étais. Moi, je disais pas aux profs que je voulais être humoriste, tu vois. Mais ils voyaient qu'en fait, j'avais autre chose dans ma tête. Ils l'ont clairement compris que j'avais autre chose dans ma tête. Ils ont vu que j'étais là sans être là, finalement. Donc, ils ont dit, bon, vas-y, toi, je pense que ce serait bien de partir en pro, nanana. Je disais, bon, ok, moi, j'aime bien le marketing, j'aime bien le commerce. J'aime bien l'immobilier, tout ça. Bon, ok, on va te mettre en bac pro-vente. Tu vas faire un bac pro-vente et tout. J'ai dit, ok, moi, ça me va. 3 ans d'études, du coup, voilà, je fais 3 ans au lycée. Ça se passe bien. C'est vraiment là où, tu vois, j'arrive vraiment à me connaître, à me découvrir. T'as vu, en tant que jeune femme noire, c'est là que tu réalises vraiment que t'es à ta place.
En bac pro-vente.
En bac pro-vente, finalement.
Et pourquoi, si on peut s'étaler un peu, pourquoi à ce moment-là, justement ?
Parce que je vois toutes celles et ceux qui me ressemblent. C'est à ce moment-là que je vois toutes celles et ceux qui me ressemblent parce que. Au collège, bah voilà, on n'est pas trop stylé. Les filles que tu vois sont celles qui te ressemblent pas et tu commences à grandir. Tu vois que même moi, en fait, quand j'ai grandi, j'ai directement eu mes inspirations des femmes américaines, en fait. Parce que tu vois qu'en France, tu peux pas trop te relier à des femmes qui te ressemblent, surtout quand t'as quoi, t'as 12-13 ans. Du coup, tu te dis, bon, allez, je vais aller voir là-bas et tout. Donc, ça veut dire que quand moi, je suis au collège, je suis en 4e, 3e, même 5e, je vois qu'il y a des filles, elles se sentent représentées par, je sais pas à l'époque, il y avait qui ? Il y avait Tal, il y avait Amel Bent, il y avait Vita. Elles avaient ce sentiment d'appartenance envers ces femmes-là. Moi, pas du tout, tu vois, j'aimais bien, mais elles me ressemblaient pas. Elles étaient pas noires, elles avaient pas les mêmes cheveux, tu vois. Donc, ça veut dire directement, j'ai eu ce lien avec les stars américaines. Donc, quand j'arrive au lycée, boum, je vois qu'il y a énormément de filles comme moi, des mecs qui ont les mêmes délires que moi. Et je dis, waouh, ça y est, c'est bon. It's time, là, c'est bon, je suis arrivé. Ça y est, je suis là, c'est bon, je suis dans les bails.
ça veut dire, au-delà même de l'école et de ce que tu apprends, c'est vraiment, limite, l'apprentissage est fait par les autres. C'est la rencontre des autres.
C'est à base de ça. Et finalement, je trouve que même ma vie, moi, c'est à base de ça. Hein. C'est que ça.
Et c'est ouf parce qu'à chaque fois que je reçois quelqu'un ici, il me dit qu'il y a Riyad Salem qui nous disait une partie de nous, c'est les autres. Il y a Guy, l'ancien de la Lucarne, qui la semaine dernière, pareil, disait la même chose. En fait, c'est les autres. C'est les autres qui nous construisent. T'es d'accord,
toujours,
toi, avec ça ?
Toujours. T'as vu, comme moi, j'aime bien dire, il y a l'école de la maison et l'école de dehors. Ça veut dire, l'école de la maison, c'est l'éducation que tes parents et ta famille vont te donner. Après, toi, tu auras un peu de ça dans ton cœur et dans toi. Et dehors, c'est vraiment là-bas que tu vas te fabriquer, tu vois, parce qu'au final, la famille reste telle qu'elle est. Mais dehors, c'est vraiment là où tu vas vraiment te fabriquer.
Du coup, tu arrives, tu es en bac pro vente. Comment se passent ces 3 années de bac pro vente au niveau scolaire ? C'est quelque chose d'assez facile pour toi ? Ou encore une fois, c'est quelque chose que tu prends par-dessus le pied ? Et deuxième question, surtout, tu nous dis que toi, tu voulais vite finir l'école parce que tu savais que tu voulais être humoriste. Il n'y a jamais ce moment où tu te dis peut-être que je vais pas réussir à faire ça, il va falloir quand même que je me retrouve dans un métier que j'aime.
Déjà, bah, les 3 ans, c'est... ça se passe bien. Ça se passe super bien. C'est quand, encore une fois, c'est là où j'arrive vraiment à me découvrir, que j'arrive vraiment à prendre confiance en moi, hein, pleinement, tu vois. Parce que quand tu vois qu'il y a des gens comme toi qui comprennent ton délire, donc ça veut dire que tu peux parler avec eux, tu peux rigoler avec eux sans être vu comme une meuf qui n'a rien à voir avec eux, tu vois. Donc ça se passe super bien. Moi, en cours, voilà, je me débrouille comme je peux, mais je fais toujours rire les gens. Je reste quand même encore rêveuse, tu vois. Je fais ce que je peux au travail, je fais ce que je peux dans mes contrôles et tout. Ensuite, je laisse. Ça reste toujours juste. C'est toujours habit de justesse. Habit de justesse, peut mieux faire. Bavardage, comportement, à revoir. Mais on tient. Et arrivé à un moment, on est en terminale. Je décide de commencer les vidéos parce que je sens que, vas-y, on arrive à la fin du lycée. Je me dis, faut que j'existe dans le sens où, ok, je veux faire humoriste, mais meuf, personne ne te connaît. Donc,
tu lâches pas le rêve, c'est un truc de ouf.
C'est une dingue.
Mais c'est vraiment ça la dinguerie.
Mais c'est
en
une
fait.
Folie parce qu'en fait, j'en ai jamais parlé. Maintenant que j'en parle, c'est là que en fait, j'étais malade.
Ouais, t'étais une ouf. Non, je te le dis.
Parce qu'en fait, moi,
je te confirme.
C'est là que je me dis, parce que même mes potes, mais moi j'avais une pote avec moi au lycée, elle me disait, mais pourquoi tu fais ça? La tête au homme. Tu vois, on était là, par exemple, on était en train de faire les dossiers du bac et tout. Ah, attends, j'ai un tournage. Pourquoi tu fais ça? Elle me dit, pourquoi tu fais ça? Je dis, t'inquiète, tu vois. Et avec du recul, moi-même, je pense que j'aurais dit ça. Aujourd'hui, moi, j'aurais dit ça à la même meuf, tu vois.
Oui, mais il n'y a pas ce truc où tu te dis, peut-être que, tu vois, c'est humain en vrai. Peut-être que je ne vais pas réussir. Il faut que je fasse un taf que j'aime.
J'étais
surtout,
touchée.
On sait que c'est un métier précaire et tout.
De fou.
Intermittent du spectacle, on l'a vu pendant le Covid, ça devient vite chaud. Il n'y a pas un moment où tu t'es posé, tu t'es dit, ouais, je suis peut-être mieux fait pour être vendeuse ou quoi. C'est
laisse
un truc
tomber,
de ouf.
Genre même moi, par exemple, en fait, j'ai jamais été à 100%, genre même dans mes stages, je me donnais jamais, toujours. Moi, dans mes dossiers de stage, toujours, ils disaient, dépasse-toi, peux mieux faire. Abby, nanana, elle est trop têtue dans son truc de, elle fait comme elle veut. Genre moi, en fait, dans ma tête, par exemple, quand j'ai fait des stages en agence immobilière, je passais mes journées à appeler les maisons, enfin les maisons, je suis une ouf, à appeler les clients pour les relancer sur leur achat de maison et tout. J'appelais, s'ils ne répondaient pas, bah, tant pis, j'appelle une autre fois.
On n'appelle pas deux fois.
Tu vois, t'as capté, elle me disait, Abby, il faut que tu insistes et tout. Je disais, bah non, j'ai appelé, tu me demandes d'appeler, moi, tu vois, j'appelle. Pareil, j'ai fait un stage dans le commerce, dans un magasin, je pliais les pantalons comme je pouvais, tu vois. Et elle me disait, Abby, c'est pas si bien plié. J'ai dit, mais plié, c'est plié. Elle me dit, non, mais Abby, dépasse-toi, faut que tu fasses mieux et tout. Et en fait, ça a toujours été ça. Toujours, on m'a dit, Abby, c'est de justesse, dépasse-toi, tu peux mieux faire. Et moi, je disais, mais vous comprenez pas, vous. Moi, à la base, je veux pas faire ça, tu vois. Mais après, tu commences à comprendre la vraie vie quand tu vois que, vas-y, tu gagnes pas d'argent, en fait, dans l'art. Il y a énormément de passion, mais. Mais il n'y a pas de thune, en fait. Donc, tu te dis, bon, on va commencer à trouver un vrai travail, déjà, dans un premier temps.
Ça veut dire que tu réfléchis quand même à ce vrai travail.
Oui, après, en fait, ça, c'est après les études, après le bac. Une fois que j'entre dans la vie réelle, les vidéos et tout, ça va, ça se passe bien, ça marche. Mais je ne gagne pas d'argent. Je ne gagne pas d'argent, ça veut dire 2-3 partenariats par là. Tu prends même pas un SMIC. Tu prends même pas la moitié d'un SMIC. C'est juste ça pour t'acheter des sapes ou vite fait. Tu vas pas vivre comme ça, tu vois.
C'est aussi important de le dire parce que les gens, ils ont l'impression que dès que tu fais des partenariats, tu es rentré dans un autre monde. Alors que c'est pas tout le monde qui fait des partenariats à 15-20K par mois.
Ben non, c'est faux. Après, ça dépend le statut que t'as vu. Ça dépend ce que tu fais. Moi, je suis une comique. Ça veut dire déjà, je suis pas appelée pour Jean-Paul Gaultier ou je sais pas quoi, tu vois. Je suis vraiment un peu pour aller manger dans un resto ou pour une petite marque de sap, donc tu prends pas des 1000 et des 100. Ça veut dire que même ta mère a dit ok, c'est bien, mais avec l'argent que t'as ramené là, voyez, en fait, tu vois. Donc elle commence à me faire comprendre, là t'as arrêté les études, t'as eu ton bac, c'est bien, va taffer, parce que c'est bien beau, tu rentres tard le soir avec tes scènes, mais va taffer, tu ramènes pas d'argent pour le moment, donc tu comprends qu'il faut travailler. Donc je rentre dans la vie active, toujours avec mon rêve en tête. Mais il commence un peu à baisser parce que ça y est, tu commences à prendre l'âge et tout. Tu réalises qu'en fait, va falloir encore plus bosser dans la vie réelle pour ramener des sous parce que c'est ce qui est palpable en vrai. Et les rêves, il faut les mettre de côté. Donc je commence à travailler, je travaille, je fais assez d'argent. Et,
tu travailles dans quoi?
Alors en premier, j'ai travaillé en tant que formatrice numérique. Donc ça veut dire que j'apprenais à des gens à utiliser un ordinateur et tout. C'était vraiment du suivi. Et c'est un métier qui avait absolument rien à voir avec ce que je fais, tu vois, parce que je faisais pas de blagues. C'était vraiment des gens
sérieux.
Clairement, tu vois. Mais encore une fois, c'était pour le coup, c'était le premier travail qui m'a vraiment permis de me surpasser. Parce que bon, on m'a toujours dit, ah vas-y, t'es trop bonne et tout.
T'es trop juste et là, t'es parti.
Trop juste et là, du coup, j'étais obligée de faire des efforts parce que des gens, tu devais vraiment leur apprendre à utiliser un ordinateur.
Mais est-ce que ces gens-là, je me permets de poser la question, est-ce que ces gens-là aussi ne te renvoient pas à tes parents, comme tu le disais, il y a ta mère qui ne sait pas lire. Est-ce que le fait que ces personnes aient du mal un peu avec le numérique et tout, ça ne te renvoie pas aussi à un cercle familial où
si,
tu as vu
pleinement.
Tes parents galérer, donc c'est plus facile pour toi d'être empathique envers eux.
Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, ça ne me dérangeait pas. J'étais pas dans le truc, oh putain, ça me saoule, ils ne peuvent pas comprendre à écrire A, B, C, D. J'étais pas dans ça parce
ça
que tu vois.
Pas.
Clairement, t'as vu, moi, ma mère, pareil, quand elle me demande d'écrire, d'enregistrer un numéro dans son téléphone, bah je sais. Et surtout, les personnes qui y sont, c'est souvent des personnes qu'on lâche de mes parents. Donc voilà, il y a beaucoup ce truc de ces limites. J'ai pas envie de leur donner des ordres quand je leur dis écrivez ça, ça me saoule parce que je me dis putain, c'est limite mes darons, tu vois. Donc c'est un travail qui m'a plu. Ensuite, j'ai arrêté. J'ai travaillé dans le commerce, dans les magasins. Mmh. Ça m'a saoulé, j'ai arrêté.
Et dans les magasins, tu faisais de la vente ?
Clairement.
On rencontre beaucoup de gens. Est-ce que ça te permet aussi de développer un peu ton talent d'humoriste ? Est-ce qu'il y a ce truc où tu vannes les clients ou toi, tu viens, pareil, tu les encaisses et chacun rentre chez soi ?
Pas forcément. Après, il y a le truc très sociable. Hein. Ça veut dire qu'on fait des petites blagues et tout, mais moi, je leur fais pas de sketch, quoi. Mais après, il y a ce truc où t'as vu ce qui est relou. En fait, ce qui est relou, après, c'est que ça fait partie de ma personnalité. Moi, en dehors de l'artiste que je suis, bah, je suis très réservée.
Ça veut se dire... voit pas.
C'est une dinguerie, hein. Non, mais là, parce que je suis dans mon élément. Mais en vrai, je suis très réservée. Ça veut dire que moi, même au taf, si tu creuses pas, bah, jamais tu vas savoir que je fais ça, tu vois. C'est-à-dire, là, mon patron, il a appris là, récemment que je fais du stand-up. Il savait pas. Mais il savait pas, c'est mes collègues, ils l'ont poucave. Jamais les pardonner. Parce que t'as vu, moi, je suis dans l'optique où je taffe et c'est ma vraie personnalité. Je suis très réservée. Donc les gens, même parfois, ils peuvent penser que je suis une meuf qui bombe. En vrai, pas du tout. C'est juste que, tu vois, je suis dans l'optique où j'ai pas de micro, y a pas de caméra sur moi. Donc... Enfin,
ouais,
tu vois.
De...
Tu vois, du coup, voilà. Donc c'est-à-dire, même moi, dans tous les taffes que j'ai fait, j'ai toujours été très, 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 très carré. On rigole un peu si je suis à l'aise. Mais sinon. Je fais mon taf et fin.
Avec toujours dans la tête, je veux être humoriste.
Je veux être humoriste. Donc du coup, ça, le vrai travail, il a commencé l'année dernière. J'ai repris la scène en 2021, octobre 2021. Je me cherchais un peu parce que voilà, en fait, j'avais travaillé toutes ces années. Du coup, ça, je me cherchais un peu parce que voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas joué. J'avais beaucoup travaillé derrière et quand j'arrive, bah, je vois que ça marche pas comme je veux. Ça ne marche pas comme je veux parce que voilà, tu vois que le milieu, il a changé un peu. Il y a beaucoup de gens qui veulent t'imposer des choses. Tu joues là, tu fais ci, tu fais ça. Dans tout ça, tu vois que tu ne gagnes même pas d'argent.
C'est super intéressant. Est-ce qu'on peut développer longuement sur ça ? Quand tu dis il a changé, c'est sur quel aspect exactement ? C'est sur l'image que toi, tu te faisais du métier ?
C'est, pleinement.
C'est quoi qui te dérange un peu dans le milieu quand tu commences, en tout cas en 2021 ?
En 2021, quand je reprends, bah déjà, moi, j'ai commencé à 14 ans. Ça, parce qu'on n'est pas, parti sur
ça. On n'est pas parti sur ça, mais ta première scène, c'est 14 ans.
C'est
et là, 14 tu vois que ça ne marche
ans.
Pas.
Non, ça marche direct, en vrai.
Mais tu vois qu'il n'y a pas de... Comment on explique ça ? Qu'il faut un public, qu'il faut te constituer un public.
C'est ça.
Donc...
C'est ça. Du coup, moi, à 14 ans, je fais ma première scène pendant 3 ans. Et en fait, à partir de 17 ans, je réalise qu'il me faut un public. Donc là, je fais les vidéos. Mais du coup, de mes 14 à 17, c'est les gens que je fréquente, les organisateurs de salles, les organisateurs de comédie club que je fréquente. Mais après, quand je reviens, genre 2 ans après, bah, tu vois que tout a changé. Tu vois que les gens sont plus pareils. Y a un traitement très différent. Tu vois que t'es pas la seule meuf. Que tu vois, le traitement n'est pas pareil du tout. Et tu te dis, putain, mais en fait, il y a mon rêve dans ma tête. Vous êtes en train de me faire quoi, les gars ? Qu'est-ce que vous me faites ? Donc, tu te dis, bon, bah, là, va falloir se concentrer. Va falloir se concentrer parce que ce que t'as en toi, il y a que toi qui l'as, tu vois, il y a que toi qui sais ce que tu vaux. Les gens ici, ils sont prêts à miser que tu vaux rien. Donc, montre-leur, tu vois. Donc, du coup, là, il y a Steve qui intervient. Steve, le fameux, qui est déjà passé ici.
Ouais, qui est passé dans Paris Talk Show. Steve, qu'on salue d'ailleurs, très,
gros
très bon
big
gars.
Big up à Stevie. Et donc ça veut dire que voilà, moi Steve, je parle avec lui depuis mes 16 ans, 16-17 ans. À l'époque où je jouais beaucoup dans les comédie clubs parisiens, il m'a dit « Ouais, t'as un vrai truc et tout, faudrait qu'on bosse ». Donc du coup, quand on se revoit en 2021, il me dit « Bon, Abby, t'as vu là, il y a un problème au niveau de l'écriture, c'est pas assez bien et tout, donc moi ce que je peux te proposer, c'est qu'on fasse des répétitions comme avant ». Et moi dans ma tête, je suis en mode « Mais peut-être qu'il a raison, tu vois. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'en fait, t'es juste pas au point, en fait. Peut-être que les gens aussi se comportent avec toi, peut-être parce que toi, t'es pas dans le bon truc, tu vois.
C'est plus toi qui as changé que les gens.
Oui, peut-être aussi, tu vois. Les gens, après aussi, il faut partir dans le psych où dès que les gens ont un peu de pouvoir, ça y est, ils se prennent pour je ne sais qui. Donc forcément, s'ils peuvent se mettre au-dessus de moi, ils vont le faire. Donc moi, je commence à reprendre les répétitions avec Steve. Et on reprend tout de zéro, en fait. Moi, en fait, je mets une croix sur mon passé de stand-upeuse de mes 14 ans. C'est pour ça même quand on me demande t'as commencé quand, je vais pas au fond quand je dis 14 ans parce que, tu vois, c'est une autre partie de ma vie, tu vois. Du coup, ça fait qu'on fait les répètes. Arrivé à 2023, ça y est, on écrit un tout nouveau sketch. On développe, on fait des bonnes répètes avec Steve. Et de là, après, bah, Steve, parce que Steve, c'est ça, il va t'aider une longue période. Après, boum, il te laisse prendre ton envol. Ça veut dire on fait beaucoup de répétitions. J'ai mon sketch qui marche bien. Allez, va faire tes affaires. On se revoit plus tard. Je fais mes sketchs toute l'année 2022 dans tous les comedy clubs parisiens. Ça se passe super bien. Et Steve, il revient au moment où moi, je commence à me mettre dans mon spectacle. Tu vois, il me dit, c'est comment et tout. Je lui dis, bah, écoute, là, ça y est, hein, je pense qu'on a assez pour faire un spectacle. Il me dit, vas-y, est-ce que t'es chaude pour qu'on prenne les répétitions et comme ça, on a un bon spectacle. Et Steve, en fait, il vient toujours au moment où j'ai besoin de stabilité, tu vois, de structure. Parce que t'as vu, moi, en fait, je sais que je peux pas tout gérer parce que je fais plein de trucs. C'est-à-dire que si je dois gérer ma mise en scène, plus l'écriture, plus ça, plus la salle et tout, j'ai dit non, je vais avoir besoin de Steve. Donc Steve m'a permis vraiment d'être restructuré, en fait. Donc ça veut dire qu'on a repris les répétitions ensemble, on a lancé la date et du coup, là, on est prêt pour le 8 décembre.
Le 8 décembre, on en parlera un peu plus tard. Tu verras ton premier spectacle sans pression.
Ça y est.
Est-ce que toi, tu as eu des gens qui t'ont inspiré au-delà de Kev Adams ou des modèles féminins peut-être qui t'ont marqué dans l'humour et tu t'es dit je vais ressembler plus à ce genre d'humoriste plutôt qu'à ce genre-là?
Ouais, bah écoute, ça a été dur de trouver un modèle dans l'humour. Ça a été dur parce que voilà, il y a Kev Adams vraiment qui m'a vraiment inspiré. C'était vraiment mon exemple. Il y avait Kev Adams. Ensuite, après, tu commences à tomber sur Farid. Il y a eu l'époque Farid quand il est arrivé. Putain, mais c'est qui ce Renaud, tu vois? Après, il y a eu.
Gros cheveux.
Le mec trop stylé. En fait, il est trop stylé, ouais, mais Luca personne ne peut s'habiller comme lui, en fait, tu vois. Tu te dis, mais c'est qui ce négro et tout, tu vois. Après, il y a Jason Brokers. En fait, il y a toute la vague des nouveaux stand-uppers qui sont arrivés. Après, dans les filles, je me suis pris une claque quand Fazili Camara elle est arrivée. Moi, je me souviens que quand elle est arrivée, j'ai dit ouais, ça y est. Parce qu'en fait, pendant longtemps, on était confrontés à Claudia Tagbo pendant des années, tu vois. On n'avait que Claudia Tagbo en modèle féminin dans l'humour. Et moi, après, personnellement, je ne me reconnaissais pas dans ce qu'elle faisait. Et puis, elle était beaucoup plus âgée que moi. Ça veut dire que c'était déjà une femme, tu vois. Donc, moi, à l'époque, j'étais adolescente. Donc, OK, ça me faisait rire. Mais je ne me reconnaissais pas en elle. Donc, le fait d'avoir vu Fazili Camara arriver comme ça, fraîche, toute jeune et tout, je dis ouais, ça y est. En fait, elle, dès que j'ai vu Fazili, j'ai dit ouais, ça y est. Ça peut être ma sœur, ça peut être ma pote. Et je pense que beaucoup de filles noires ont directement eu le même coup de cœur pour Fazili quand elle est arrivée. Donc, je te dirais Fazili dans les modèles féminins. Et c'est tout. Après, c'est plus dans les States. Il y a Tiffany Haddish, une stand-upeuse américaine. Mm-hmm. Et il y a Zeynab, je ne sais plus c'est quoi son nom de famille, mais c'est une américaine.
C'est vraiment pas moi qui pourra t'aider.
Désolée, c'est Zeynab. Non, c'est une américaine. Zeynab, quelque chose, très forte. C'est des stand-upeuses noires, du coup. Et voilà.
Et est-ce que dans le futur, tu aimerais justement, toi, t'exporter ailleurs qu'en France? On parle, même petite, hein, tu as eu ces modèles américains, pas au niveau de l'humour, mais même
ouais,
au niveau des femmes, etc.
Dans tout.
Est-ce qu'il y a ce délire, cette envie, peut-être, un jour, de traverser les frontières?
Ouais, pourquoi pas. Franchement, moi, après, tu as vu, moi, je suis d'origine malienne, donc tu vois, ce serait vraiment bien, déjà, de pouvoir faire quelque chose là-bas. Je sais pas quoi encore, tu vois, peut-être un comedy club, peut-être. Déjà, jouer mon spectacle dans un premier temps, ce serait quelque chose. Après, l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, ça y est, pendant longtemps, on a fait les gros yeux sur les États-Unis, mais aujourd'hui, l'Afrique, c'est stylé. T'as vu, ça y est, on est en place. Ça veut dire, quand tu vois en Côte d'Ivoire, il y a le Parlement du Rire qui est au top. Tu vois, c'est les références dans les contenus humoristiques. Du coup, ouais, il y a l'Afrique que j'aimerais bien tester. Ensuite, ouais, comme tout le monde, les États-Unis, y jouer, je sais pas. Tu vois, si j'ai l'occasion d'y jouer et que j'ai un public jusqu'aux États-Unis, oui. Mais après, est-ce que je serais chaude de faire mes sketchs en anglais? Ça, je pense pas.
Your English is not good. Little.
Faut voir mon spectacle pour comprendre mon rapport avec l'anglais. Hein. Ah, ça, j'en parle à fond dans mon spectacle.
Et justement, tu parlais de l'Afrique. Tu fais la première partie de Go, Michel. C'est incroyable. Un truc de ouf.
J'en ai encore des frissons. Là.
Comment se passe la connexion entre toi et lui?
C'est alors, c'est mon frère, mon frérot Oumar Mané, gros big up à lui. C'est un humoriste guinéen qui a l'habitude de jouer partout dans le monde. Hein. Franchement, lui, il joue partout dans le monde. Il joue en Afrique, il joue en Italie, il joue en France. Et en fait, on est en mars 2023 et ils font un spectacle qui s'appelle Aquabacho. Donc Aquabacho, c'est un spectacle qui réunit tous les humoristes de l'Afrique. Donc tous les pays, il y a la Guinée, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo, le Cameroun et tout ça. Et Oumar Mané, mon pote, en fait partie. Donc ça veut dire que moi, je vais voir le spectacle. Et moi, en fait, j'étais y allée en mode surprise, tu vois. Du coup, quand il m'a dit, mais pourquoi tu m'as pas dit, je t'aurais mis en première partie? J'ai dit, mais non, arrête toi, tu vois. Et surtout que j'ai pas précisé qu'en fait, Aquabacho, c'est créé par Digbeu Cravate et parrainé par Gohou. Donc ça veut dire, eux, ils jouent. Et donc il me dit, mais je t'aurais mis en première partie. Je dis, mais non, c'est bon, tranquille, tu vois. Que des mots, tu vois, encore une fois. Je crois pas ça, il me fait, bon, vas-y, tu sais quoi, prochaine édition, je te mets en première partie et tout. J'ai dit, mais vas-y, blablabla, toc, 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 tu vois, il parle. Et j'y crois sans y croire, tu vois. Deux, trois semaines avant, il me dit, bon, bah, salut, c'est pour te dire que voilà, là, en fait, Digbeu Cravate, il venait faire son spectacle avec Gohou. Il va venir, c'est pour te dire que voilà, t'es dans la liste des premières parties.
C'est un truc d'ouf.
Et j'y crois, mais il me dit, voilà. Et moi, je dis, waouh. Je dis merci mon frère, il dit hey, d'être ça, on en parle plus tard, tu vois, d'être ça et on en parle plus tard. Donc moi quand j'y vais en fait, j'oublie l'humoriste que je suis. C'est juste l'enfant qui regardait les cassettes, qui connaît les répliques par cœur, qui est là-bas. Moi quand j'arrive, j'arrive dans la salle, je les vois en train de répéter. Je dis purée, on y est. C'est-à-dire que moi en fait, j'oublie carrément que je dois jouer. Mais j'oublie que je dois jouer.
C'est pas facile à gérer ça justement.
C'est compliqué, c'est bizarre parce que tu te dis, ah, c'est vrai que je dois jouer, mais en même temps, il y a mon côté très fan, très enfant, tu sais, il y a la petite fille que j'étais qui voit ses idoles, clairement, tu vois. Donc ça veut dire, moi, je joue. Et ensuite, à la fin, bah, je vais voir Gohou et Digbeu et tout ça. On échange un petit peu. Après, il y a beaucoup de monde, donc tu vois, on peut pas parler longtemps, mais on parle du peu qu'on. On parle assez. Et on fait une petite photo et tout ça. Et de là, moi, ça y est, c'est là que je vois que j'ai... Je dis pas que j'ai passé un cap, ça y est, ma vie est toujours la même. Hein. Ma vie est toujours la même, attention, c'est juste que voilà, quand je rentre chez moi, ma famille, ils disent, ah ouais, purée, Gohou, tu vois. Même mon père, il a dit, purée, j'aurais dû venir. Mon daron, hein.
Ah, il était pas là.
Il était pas là, il pouvait pas ce jour-là. Mais il a dit, purée, Gohou, parce que t'as vu, mon père, il a les cassettes, donc tu vois, il sait qui c'est, tu vois, il a dit, Gohou, waouh, tu vois, c'est notre star à nous. Ça veut dire que même les gens dans ma famille disent, purée, t'as vu Gohou, wesh. Alors, t'as vu, moi, c'est... Carrément, j'aurais pas eu tous ces frissons si c'était Kevin Hart, pour te dire. Parce que j'ai pas grandi avec Kevin Hart.
C'est...
Il est chaud et tout, mais pff, voilà, si je le vois, ça me ferait plaisir, sans plus. Mais là, Gohou Michel,
et faire
la
sa
légende.
Première partie, c'est ça qui
première
est
partie, on est dans un truc.
Au-delà de le
où...
voir.
T'as vu
et une première partie, il faut le dire, c'est important parce que t'amorces un peu.
Exactement.
L'humoriste qui va arriver derrière, toi, tu chauffes un peu la salle.
C'est ça.
C'est un truc de ouf.
Donc ça veut dire que là, moi-même, en fait, ça m'a permis de soulager l'enfant que j'ai été dans le sens où ah, t'as vu, regarde, j'ai fait quoi, t'as vu, regarde, j'ai fait quoi, genre en mode ça y est, t'as vu, t'es mal, comment tu regardais les cassettes, maintenant t'es avec lui, tu vois. Il y a ce truc où je me dis, waouh, c'est trop bien, tu vois.
Et est-ce que quand tu sors de là, tu te dis, ça y est, j'ai réussi, même si derrière, tu vois, je fais pas le grand Rex, etc., c'est bon, là j'ai réussi, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'avais un rêve depuis que je suis petite, et limite, je suis pas arrivé au bout du rêve. Mais je suis arrivé loin quand même dans le rêve.
Non, pas du tout. Moi, je suis une galère. Hein. Moi, je suis dans le sens où si c'est rien. En fait, c'est fort parce que ce que j'ai fait, certains le feront jamais. Je suis très consciente de ça, mais je suis dans le truc où on n'a encore rien fait. On n'a encore rien fait, t'as vu. Le but, c'est pas que de faire les premières parties de Gohou Michel, c'est de faire des spectacles avec lui, tu vois. Donc, je me dis que... Ok, là, cette fois, on a fait la première partie. Bah, peut-être que demain, on ferait une collab ensemble. Peut-être que demain, voilà, je l'inviterai à un événement à moi. Tu vois, c'est le but, c'est d'aller vraiment toujours plus loin. Et il y a ce. Moi, il y a cet ultimatum qui, tu sais, tout le temps, je me dis, t'as pas le choix. Si on aime bien dire, oh, t'as le choix, mais en vrai, t'as pas le choix. Moi, personnellement, là où je suis, j'ai pas le choix. Parce que moi, je suis dans le défi où j'ai prouvé à ma famille par A plus B que c'est un métier qui en vaut la peine. Faut juste me laisser rêver, mais que je suis à fond dans le truc. Et il y a la fameuse phrase d'Alpha One qui dit « Quand tu vis tes rêves, tu dors plus. » Bah, elle est réelle. Dans le sens où moi, je suis très concentrée dans ce que je fais. Et du coup, même ma famille, là, tu vois, pour eux, ça a été un truc de ouf de voir que Go, nanana. Je leur dis « C'est rien. C'est rien du tout. »
Même eux, tu les as fait redescendre sur terre un peu.
Ouais, en mode, bah, ils sont contents, mais ils savent qu'il y a encore plein de travail. Mais ils sont en mode « T'as vu, t'as fait Go ?» Je dis « Ouais, mais c'est rien. C'est rien, tu vois. C'est rien. » Ça veut dire que je suis pas encore là où je veux être, mais on continue à taffer dur pour. Et encore une fois, il faut mettre en place que t'es jeune, t'es une fille et t'es noire, tu vois.
C'est compliqué, ça. Même aujourd'hui, avec la démocratisation,
c'est un peu plus facile. C'est un peu plus, je dis la vérité, c'est un peu plus facile. Mais ça reste quand même dur, dans le sens où c'est pas sur toi qu'on va miser en premier. C'est pas sur toi qu'on va miser en premier. Genre, les gens diront, pourquoi toi, tu vois. Mais c'est moi, en tout cas, c'est ma mentalité pour être déter, en fait. Je me dis, personne ne le fera pour toi et il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, vraiment pas le choix.
Et quelle est l'importance de ta famille, justement, aujourd'hui, dans ton taf d'humoriste? Est-ce qu'ils t'ont accompagné dans ce rêve-là tout au long? Ou est-ce qu'il y a des moments où on t'a dit, tu le disais hein, tout à l'heure, ta mère, à un moment, elle dit, ouais, bon, le loyer, là, ça devient chaud. Alors peut-être que tu trouves autre chose. Mais est-ce qu'il y a ce truc de, ils t'ont quand même soutenu jusqu'au bout? Quelle est leur place aujourd'hui dans ta réussite?
Bah, ils y sont pour beaucoup, hein, parce qu'encore une fois, moi, c'est grâce à eux que je découvre Jamel Comedy Club. C'est grâce à eux que je découvre les Guignols d'Abidjan, ma famille, ou c'est grâce à eux, en fait, que j'arrive à me fabriquer. Parce que eux, tu vois, c'est eux qui mettent la musique, c'est eux qui mettent les premiers albums, c'est eux qui mettent tout. Donc, ils arrivent à construire une partie de moi. Après, quand je rentre dans l'humour, c'est un métier où qu'on ne connaît pas. C'est un secteur qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas comme si tu te lances dans la musique, il y a toujours un manager, il y a toujours un mec qui a un studio à gauche, à droite qui peut t'aider. Mais là, on rentre dans le stand-up, un milieu inconnu. Tu vas vraiment en terre inconnue. En plus, tu es jeune, tu as 14 ans. Ça veut dire qu'ils m'accompagnent. Ils m'accompagnent à mes scènes. Ils viennent avec moi. Ils en parlent un peu autour d'eux pour que leurs amis viennent me voir et tout. Ensuite, quand je décide de reprendre le stand-up officiellement en 2021... Bah, j'ai grandi déjà. J'ai quoi ? J'ai 19, 20 ans. Donc, ils disent, bon, ça y est, maintenant, tu vas te débrouiller solo. Mais il n'y a plus cette même énergie de, bon, vas-y, allez, tu vas le faire, tu vas tout tuer. Parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients du truc de, bon, OK, tu peux pas rêver éternellement de ton truc. Il faut que tu nous ramènes quelque chose de concret, tu vois. Donc, on va te faire tes bails, mais fais de l'argent à côté aussi. Donc, même moi, en fait, là, c'est eux qui m'ont motivé dans le sens où, ah, là, en fait, vous êtes en train de me dire que vous y croyez pas. En fait, j'ai vu ça comme ça. Et j'ai dit, ah ouais, vous êtes en train de me dire que vous y croyez pas. En mode, pour vous, ça va pas le faire. Bah, ok, je vais vous montrer. Donc, c'est-à-dire, je suis rentrée dans mon combat à moi-même. Je leur ai prouvé par A plus B que voilà, regardez, j'ai fait ça. J'ai pas encore fini parce que jusqu'à présent, je suis encore en train de prouver des choses. Donc, je suis dans un combat, pas contre ma famille, mais je suis dans le truc où, regardez, me félicitez pas maintenant, ça sert à rien. Regardez seulement. Donc, voilà, ils m'ont beaucoup aidé. Mais il y a le truc où là, je dois prouver. Je dois vraiment prouver des choses.
Et ça passe par justement ton spectacle le 8 décembre prochain. Sans pression, tu
la
nous parles de quoi?
La transition est incroyable. La transition est incroyable.
Journaliste.
Incroyable. Sans pression.
Tu parles de quoi dans Sans pression? Ça t'a pris combien de temps à écrire? Comment vient l'idée d'écrire ce spectacle? Et il va durer combien de temps?
Alors en vrai, sans pression. Moi, comme je dis, sans pression, c'est le spectacle de ma vie.
Carrément.
Sans pression, c'est le spectacle de ma vie parce que... tu sais, c'est comme les rappeurs, ils disent, il y a un rappeur, quoi, c'est SCH, il a dit, ton premier album, tu le fais en 10 ans. Tu le fais en 10 ans parce qu'en vrai, c'est toute ta vie. Bah, pour moi, sans pression, c'est le spectacle de ma vie parce que voilà, c'est le journal intime de la petite fille de 14 ans jusqu'à la jeune femme de 22 ans aujourd'hui. Maintenant, je ne repars pas dans mon enfance non plus, mais c'est vraiment le spectacle à voir si tu veux me connaître. Parce que, comme je te disais, tu vois, je suis très réservée dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que je pense que j'ai jamais autant parlé de moi que dans ce spectacle-là, tu vois. Par exemple, il y a des sujets que j'aborde dont j'ai jamais parlé avec ma famille, tu vois, notamment l'anxiété. Tu vois, c'est des choses qu'on n'aborde pas chez nous. Après, voilà, c'est pas pour généraliser. Mais tu vois, en plein repas, tu vas pas dire, bah écoute, je suis anxieuse, voilà.
C'est vrai que ça fout mal.
T'as regardé, tu veux quoi? Il ramène le poulet, là, tu dis quoi?
30 tapas en ma fête, tu me parles d'anxiété.
Donne le piment, là, tu veux quoi? Donc, t'as vu, je te parle de ça, je te parle un peu de ma place. En fait, j'ai donné le nom sans pression, dans le sens où, moi, avec la place que j'ai, je suis la dernière de la famille. J'ai sans pression. Mais à côté de ça, je reste sans pression, tu vois.
Justement, il faut le rappeler, ça s'écrit sans pression, 1-0. T'es beaucoup dans les jeux de mots, habille deux fois sans pression.
Franchement, je suis une meuf des chiffres, hein, ça... purée. Chiffres et des lettres.
Ça s'écrit 100-1-0-0 pression.
C'est ça.
Et donc, c'est vraiment ça, genre tu reviens sur toute
c'est
ta vie.
Clairement, en fait, c'est spectacle, ouais, c'est le spectacle de ma vie. Genre, c'est un journal intime, et je pense que c'est le journal intime de plein de filles de mon âge. Je pense qu'elles ont le même. Et même, je pense qu'il y a même des filles de 14-15 ans qui ont le même journal intime. Parce que voilà, j'aborde tout ce qu'une jeune femme peut avoir et tout ce que même une fille ou un garçon peut avoir, en fait. Je te parle de la transition entre l'adolescence et la vie d'adulte, la place que t'as quand t'es la dernière de la famille, et que tu vois que t'es comme tout le monde, en fait, et que t'as le droit d'être anxieuse, t'as le droit d'être noire, t'as le droit d'être noire et être anxieuse, t'as le droit de voir un psy, tu vois, c'est des choses assez important, tu vois. Donc pour moi, c'est important en tout cas pour la jeunesse, c'est important de voir ce spectacle.
Et justement, quand tu écris ce spectacle, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis ça, je vais effacer parce que ça va mal être envoyé ou ça va être mal reçu plutôt par les gens qui m'entourent? On sait qu'un journal intime, forcément, il y a des choses intimes. Forcément, ça ne concerne pas que nous, ça concerne aussi ceux qui nous entourent.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis il y a des parties, je ne peux pas les dire?
Non, franchement, je me suis mis aucune limite et carrément, j'ai fait un effort de fou parce que tu vois, je te parle vraiment de choses qui concernent ma famille et moi, tu vois. Encore une fois, des trucs dont j'ai jamais parlé avec ma famille, notamment, tu vois, moi, je parle du divorce de mes parents.
Okay.
Tu vois, j'en parle, on n'en parle pas chez nous, tu vois, parce que c'est des choses marquantes, mais je me dis, je dois en parler parce que c'est des choses qui m'ont marqué. C'est normal, tu vois, je dois en parler, mais avec humour. À aucun moment, il y a quelque chose de triste dans mon sketch, tu vois. Et surtout qu'en fait, au moment où moi, je l'écris mon spectacle, c'est vraiment un moment où je suis vraiment dans le down, mais de ouf. C'est une période où c'est très compliqué pour moi. Donc, je me dis qu'en fait, je ne peux pas aller parler avec un psy parce que je ne pense pas que j'aurai la force d'aller voir un psy. Mais là où je peux en parler, c'est sur scène. Là où je peux parler de mes problèmes et en rigoler, c'est sur scène. Parce que je sais que les gens rigoleront et que tu arriveras à transmettre une bonne énergie aux gens. Et toi, à côté de ça, bah, t'arriveras à guérir, mais une fois que tu sortiras de scène, tes problèmes seront encore là, tu vois. Donc, c'est pour ça que quand je l'ai fait, j'étais vraiment, pour le coup, j'avais vraiment sans pression dans ma tête. Du coup, ça veut dire que même quand on a travaillé l'affiche, j'ai dit, je veux vraiment que l'affiche représente ma vie. Genre, je sais pas si l'affiche, vous l'avez vue.
Je l'ai vue sur Instagram, je l'ai vue. On la mettra aussi en bio de ce podcast. Et on la fera apparaître par les soins de notre magnifique réalisateur, Greg.
Super. Big up à Greg.
La vidéo.
Ça veut dire que voilà, en fait, c'est des cartons. C'est des cartons avec des choses écrites dessus, notamment la famille, l'amour, l'argent, le respect. Et en fait, ces cartons-là sont censés représenter ma vie. Et moi, sur l'affiche, tu me vois assez très détendue avec un micro, tu sais, qui montre que voilà, tout ça, c'est ma vie, tout ça, c'est mes pressions. Mais moi, j'arrive quand même devant toi sans pression. Tu sais, je te raconte toute ma vie sans pression, en vrai.
Du coup, voilà. Ça t'a pris combien de temps d'écriture ?
Officiellement, je te dirais un an.
Ah ouais, quand même.
Un an. En fait, j'écrivais beaucoup sans me dire que j'allais en faire un spectacle maintenant. J'écrivais sans savoir où ça allait aller. Je jouais souvent des petits bouts. Mais à partir du moment où j'ai dit, bon, là, c'est pour le spectacle, c'est au mois de juillet. Au mois de juillet, je me suis dit, c'est bon, là, il te reste encore... t'as écrit beaucoup, maintenant, tu peux tout structurer, tu peux rajouter des choses pour en faire un spectacle. Je pense que ça y est, t'as assez de choses à dire, tu vois. C'est au moment où Steve est arrivé. Steve m'a dit, t'as combien de minutes? J'ai dit, je crois que j'ai 25-30 minutes. Ok, vas-y. Écris le reste, ensuite on fait les répètes. Donc j'ai tout écrit et on a commencé les répètes une fois que le spectacle était prêt.
Et t'as combien de minutes aujourd'hui ?
Une heure.
Et est-ce que Sans Pression, c'est un spectacle que tu veux faire voyager à travers le temps ? Ou est-ce que c'est là, ça va faire 1-2 ans ? Ou est-ce que tu veux vraiment faire toutes les grandes salles avec ce spectacle-là ?
Bah, c'est un spectacle avec lequel j'aimerais bien voyager hein, parce que je pense que c'est un spectacle qui mérite vraiment d'être vu. Qui mérite d'être vu par beaucoup de gens, notamment des jeunes femmes. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont la même vie que moi, en vrai. Il y a beaucoup de filles qui sont dernières de la famille, qui ont des rêves, qui se fabriquent dans des conditions pas trop faciles, tu vois. Donc, c'est un spectacle que j'ai vraiment envie de faire évoluer. Il y a encore des choses qu'on rajoutera sur la longue. Et voilà, si on nous offre une Olympia avec Sans Pression, bien sûr, bah ouais, je nous le souhaite à nous tous. Hein, voilà, vous viendrez en média direct, vous viendrez en interview. Et voilà, après, une fois qu'on aura bien bouclé la boucle de Sans Pression, on avancera sur un autre spectacle en fonction de la vie que j'aurai, tu vois.
L'ambition, elle s'arrête pas.
Jamais. Toujours. Jamais, jamais, jamais. Parce que j'ai pas précisé, mais j'ai lancé que du bon. Que du bon, en fait, c'est ma structure qui me permet d'organiser des comedy clubs. Donc, ça veut dire que, vu que moi, je suis une grande rêveuse, j'ai toujours été dans un délire des States. Du coup, ça veut dire que j'ai toujours fait mes plateaux d'humour, jamais dans des endroits, des bars ou des, comme on peut trouver. Mmh. C'est toujours dans des lieux assez atypiques. Donc là, la première fois que je l'ai fait, c'était dans un bar assez réel américain. Enfin, typique.
C'est pas à Châtelet, ça ?
Non, c'est pas là-bas. C'est à Bagneux, chez Millie and Company. Donc voilà, en fait, c'est une meuf qui a un bar assez réel avec des posters. En fait, ça ressemble à une chambre. En fait, c'est vraiment. La pièce ressemble vraiment à une sitcom américaine. Il y a des posters, il y a des CD, il y a des magazines, il y a tout. Et quand je suis arrivée là, j'ai dit, c'est ma chambre ici. j'ai dit, c'est ici. Et à la base, c'est un bar à céréales. Ça veut dire, les événements qu'elle faisait, c'était peut-être des soirées. J'ai dit, je veux faire un comedy club là. Donc, on a fabriqué la scène, on a ramené le DJ. Et je te montrerai les photos. Et même, de toute façon, sur le Instagram de Que du Bon, il y en a. Et c'est vraiment mon univers. Du coup, c'est là-bas que j'ai fait mes premiers comedy clubs. C'était ça aussi, c'était une manière de montrer que, ouais, voilà, regardez mes rêves.
C'est possible. Justement, nous, en créant cette émission, le but, c'était vraiment que les gens puissent revenir sur leur parcours, les échecs, les moments de doute, etc. Mmh. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes, ce serait lequel ? Surtout pour quelqu'un comme toi qui n'a jamais lâché, en fait.
Ouais.
Tu as toujours cru en ça. Et c'est marquant même pour moi, parce que moi, j'ai toujours rêvé d'être humoriste.
Ah ouais ?
Malheureusement, je finis journaliste.
Bah, c'est déjà bien, mais tu peux toujours.
J'étais entre l'humour et le journalisme. Non, j'aime bien le journalisme quand même. Ouais, j'étais entre l'humour et le journalisme. Après, moi, j'ai lâché à un moment donné.
Ok.
Regarde, laisse tomber.
Les bides, t'as pas supporté les bides.
Mais toi, je vois que t'as jamais lâché. C'est quoi comme conseil qu'on peut donner à ces jeunes qui ont un rêve en tête et qui parfois les abandonnent parce qu'ils peuvent se dire à gauche, à droite ou parce qu'ils peuvent voir
C'est ton histoire. Je peux que te dire ça, en fait. C'est ton histoire, tu le fais pour toi. Tu le fais pour toi, genre c'est ton histoire, en fait, faut que t'aies quelque chose à raconter plus tard. Tu sais, moi, mes enfants, plus tard, j'aimerais leur dire, voilà, regardez, votre mère, elle a fait quoi ? Votre mère, elle a fait ça. Parce que voilà, humoriste, c'est pas un métier basique, genre, t'as vu, tout le monde a une mère aide-soignante, une mère caissière, une mère femme de ménage, mais une mère humoriste. C'est un métier, en fait, c'est pas un truc de clown. C'est un métier avec lequel tu peux gagner de l'argent, avec lequel tu peux fabriquer des choses. Et du coup, c'est important, tu vois, de pas lâcher son truc. C'est peut-être pas concret ce que je dis à une personne qui veut poursuivre son rêve, mais fais-le pour toi, fais-le pour ton histoire, parce que personne ne le fera pour toi, en vrai. Personne ne le fera pour toi. T'as vu, moi, par exemple, j'ai grandi ailleurs. Moi, la personne, la première personne que j'ai vue percer de ma ville, c'est Nino. Tu vois ce que je veux dire ? On vient de la même ville, on a vraiment eu le même parcours. Donc tu vois, quand je l'ai vu percer, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Tu vois ? Et moi, tu vois, son parcours, je l'ai vu de mes yeux. Je sais à quel point ça a été dur. Les gens se foutaient de sa gueule et tout le tralala. Et tu vois, mon frère aussi, qui s'appelle Yaro, peut-être que vous le connaissez, qui est du coup très associé à Nino, lui aussi rappe. Donc finalement, tu vois, le fait d'avoir vu mon frère et Nino, les deux, avoir une ascension aussi fulgurante, ça m'a permis de me dire, meuf, fais-le pour toi. Parce que ces mecs-là, c'est tes frères, mais ils l'ont fait pour eux, tu vois. Ils l'ont fait pour eux, et ça veut dire que on en parlera quand on sera en haut, tu vois. Quand on sera en haut, on en parlera. Ça veut dire que voilà, même eux, hein, ils sont ultra bienveillants avec moi, ça reste toujours des conseils. Fais attention, c'est un milieu dangereux, mais fais-le quand même, tu vois. Donc, tant que tu l'as pas fait, tu peux pas juger. C'est-à-dire que moi, des fois, j'ai dit, bien sûr, il y a des trucs de fou qui m'arrivent, mais je me dis... Wesh. Moi, en fait, dès que je vois Nino, je dis, ah non, je peux pas arrêter. Dès que je le vois, non. Tu t'arrêtes pas. Tu vois, moi, je regarde beaucoup les gens autour de moi, tu vois. Donc, le fait d'avoir quelqu'un d'aussi connu auprès de moi, ça montre vraiment qu'il faut pas lâcher et ça me permet vraiment d'être préparé au milieu, tu vois, parce qu'il y a des choses pas forcément cool qui t'arrivent. Donc, le fait de voir ça de près, ça te permet de faire attention et tout.
Bah, merci en tout cas pour ces mots.
De rien.
J'ai un petit jeu pour toi. Pour la fin, je vais te donner des phrases et tu vas devoir les compléter. Par exemple, c'est mon exemple préféré. Ma couleur préférée, c'est le et tu devras compléter.
Ok, let's go.
C'est bon pour toi ?
Bien sûr.
Être jeune humoriste en France aujourd'hui, c'est ?
Stylé.
Avec tout ce qui se passe dans le monde, l'humour est le meilleur moyen pour ?
Ah, pour oublier.
Le plus dur dans l'écriture d'un sketch, c'est ?
Inspiration.
Être humoriste ici, c'est bien, mais s'il y a un pays que je rêverais de faire rire, ce serait...
Le Mali. Non, la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ils sont durs. le public ivoirien, il est très dur. Si tu arrives à les faire rire, franchement, t'es bien.
On te le souhaite alors. On te souhaite les deux. Ouais. On est maliens ici, du coup, on te souhaite les deux.
Voilà, let's go.
J'aimerais dire à Steve que...
C'est un brave.
Faire la première partie de Goût Michel, c'est juste...
Incroyable, mémorable, iconique, tout ce que tu veux. Je peux aller trop loin dans tous mes mots, là.
Le 8 décembre, au Dockside Comedy Club, ce sera...
Sans pression, venez sans pression. Ça va bien se passer.
Si je devais utiliser 3 mots pour vous convaincre de prendre vos billets, ce serait...
Venez. J'ai pas... Attends, qu'est-ce que je peux te dire, en vrai ? Moi, je te laisse compléter, hein, en vrai.
Venez, ce sera lourd.
Voilà, tout simplement.
Elle est vraiment douée et simple.
Ouais, je pense que c'est carré.
Mon interview du jour, elle s'est...
Trop bien passée, j'ai kiffé de fou.
Bah, nous aussi, on a kiffé. C'était super inspirant.
Ouais.
Je vais juste te demander, pour la fin, est-ce que t'as un message à faire passer à ceux qui t'entourent déjà, à tes parents aussi, qui, comme tu le dis, hein, t'accompagnent jusqu'aujourd'hui. Est-ce que t'as un message pour eux ?
Bah merci, hein. Merci à mes parents, merci à mes frères et sœurs, merci à mon équipe, mes amis, merci à Steve qui fait beaucoup en vrai, il fait beaucoup même pour les autres humoristes, il fait beaucoup pour la culture du stand-up, la culture de l'entertainment. Merci à mes associés, merci à tous ceux qui bossent avec moi, merci à tous ceux qui croient en moi aussi, et on va fêter ça le 8 décembre. Merci à l'équipe d'aujourd'hui qui m'a permis de m'exprimer autant.
Mais c'était un plaisir. 8 décembre au Dockside Comedy Club, on le rappelle, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
Que du bon, la santé et le reste, voilà, on ira le prendre.
On ira le prendre ou on l'achètera ?
Ouais, déjà, ouais.
Bah merci en tout cas. Pourquoi Abidofo
d'ailleurs avant... On n'est pas venu là-dessus.
Ouais, pourquoi Abidofo ?
C'est vrai qu'Abidofo, en fait, c'est dû au fait que quand... J'ai commencé le stand-up, l'entertainment, tout ça. Bah, il y avait Abby, l'artiste, et Abby, Madame Tout-le-Monde, Abby à l'école, Abby avec sa famille. Et en fait, c'était deux personnalités différentes, limite Anna Montana, le truc.
Ouais, comme tu disais, t'es très réservée.
T'as capté. Moi, que ce soit dans la vie tous les jours, je suis assez dans mon coin. Et sur scène, bah, boum, ça y est, le feu prend. Donc en fait, on s'est dit Abby. Et on n'arrivait pas à mettre Abby deux fois. On n'arrivait pas à mettre Abby sur les réseaux, ça marchait pas, il y avait un nom qui était déjà pris. Donc mon frère il a dit bah mets Abby deux fois. J'ai dit Abby deux fois, il fait ouais, Abby deux fois, comme ça c'est facile. J'ai dit go, du coup on a mis Abby deux fois, donc du coup gros big up à mon frère, hein. C'est lui qui a trouvé le nom.
On le rappelle, vous êtes 6 donc.
On est 6, c'est Yaro, gros big up à Yaro, qui sait, il va se reconnaître.
Ok, bah merci beaucoup Abby deux fois d'avoir été mon invité dans Un bout de souffle.
Yes.
Merci à vous de nous avoir écoutés, on se dit rendez-vous dès la semaine prochaine avec un nouvel invité.
Oh.
Passez une belle soirée, journée, hein, tout dépend du moment auquel vous nous écoutez. Prenez soin de vous, de vos proches et croyez en vos rêves, c'est super important.
Prenez vos places
aussi, 8 décembre, Dockside Comedy Club. On espère que nous aussi, on sera là avec, avec grand plaisir. On prendra nos places aussi, c'est comme ça qu'on donne de la force.
Voilà, merci. Merci beaucoup.
C'est comme ça qu'on donne de la force. Donc, merci beaucoup. Cette émission, bien évidemment, est disponible en podcast sur monparisfm.com et toutes les plateformes légales de téléchargement de podcasts. Et elle sera également disponible sur YouTube. Merci à Jason qui était à la technique et à Léo qui l'assistait. Merci beaucoup à Greg pour les caméras. Passez une belle soirée et journée.
Donc la morale, tu vas la faire à d'autres. Là, je suis pas bien.